Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Après une petite pause, Libre à vous est de retour. J'espère que vous avez passé une belle fin d'année 2022. Pour commencer 2023, je vais reprendre les propos de Magali Garnero, la présidente de l'April. Un zeste de réussite, un soupçon d'imprévu, une pointe d'humour, le tout arrosé d'amitié et d'amour. Meilleurs vœux à vous pour cette nouvelle année. 15h30 le mardi, ou en podcast quand vous voulez, c'est le moment que vous avez choisi pour vous offrir 1h30 d'informations et d'échanges sur les libertés informatiques et également de la musique libre. Aaron Swartz, cet informaticien militant des libertés informatiques et de la culture libre, décédé malheureusement il y a 10 ans à l'âge de 26 ans, sera le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme la chronique d'Antanac sur le thème de la rebouterie, et aussi la chronique de Marie-Odine Morandi sur le thème « Connaître les biais, cesser d'en être leur victime ». Nous allons parler de tout ça dans l'émission du jour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Le site web de l'émission est libreavoue.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou nous poser toutes questions. Et justement, en parlant de retours, nous avons ouvert un questionnaire pour mieux vous connaître, auditrices et auditeurs de Libre à vous. Y répondre vous prendra 5 minutes et nous permettra d'évaluer l'impact de notre émission. C'est également une occasion pour vous de nous faire des retours et de nous aider à améliorer l'émission. Retrouvez le questionnaire sur le site libreavoue.org. Nous sommes mardi 10 janvier 2023, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission du jour, Thierry Olville. Bonjour Thierry.
Bonjour à tous.
Nous vous souhaitons une excellente écoute.
Cause commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde, sur causecommune.fm et sur l'appli Cause commune. Pour participer à notre conversation, 09 72 51 55 46 et aussi sur causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
Que libérer d'autre que du logiciel, la chronique d'Antanac. Isabelle Carrère et d'autres personnes actives de l'association Antanac se proposent de partager des situations très concrètes et des pensées ou mises en œuvre, en acte et en pratique au sein du collectif. Le reconditionnement, la baisse des déchets, l'entraide sur les logiciels libres, l'appropriation du numérique par toutes et tous. Le thème du jour, c'est la rebouterie, donc je passe la parole à Isabelle. Bonjour Isabelle.
Bonjour, bonjour à tous et toutes. Bon, alors oui, d'abord évidemment, je vous souhaite moi aussi, nous vous souhaitons tous et toutes une excellente année. Et donc aujourd'hui, je suis assez contente d'avoir réussi à ce que, aujourd'hui on a un invité, Rémi, à la rebouterie. La rebouterie, salut Rémi, tu nous entends ?
Oui, bonjour.
Bonjour. Alors voilà, c'est vraiment chouette parce que moi j'ai été ravie quand j'ai entendu parler de cette association La Rebouterie qui donc est à Toulouse. Tu es à Toulouse là au téléphone avec nous. Et quand on a discuté ensemble, on s'est aperçu qu'il y avait quand même beaucoup de points communs entre ce que vous faites et ce qu'on fait en Antanac. Et donc je te laisse peut-être commencer avec pour présenter un petit peu la Rebouterie, ce que tu y fais, puis comment c'est arrivé cette histoire-là à Toulouse.
La Rebouterie, c'est une association où on aide les personnes à être autonomes avec le numérique et en même temps, on essaye de réduire l'empreinte environnementale du numérique.
Ouais.
Donc pour nous, ça avait un lien, ces deux actions. Voilà, donc il se passe plein d'activités autour de ça et ça vient principalement du fait qu'on était plusieurs à aider autour de nous les personnes qui étaient perdues avec le numérique, qui avaient toujours un problème. Même nous, hein, sur des réparations, etc., etc. Et à force d'aider un peu les autres autour de nous, et bien on s'est dit pourquoi pas essayer de créer une asso où ça serait un lieu ressource autour de tous les problèmes qu'on a avec le numérique.
C'est ça. Et ouais. Quand tu dis le numérique, c'est bien comme nous à Antanac, à la fois la partie hard et la partie logicielle applicative.
Tout à fait. Tout à fait. On prend la machine dans son ensemble parce que les problèmes ils sont des fois logiciels, des fois matériels, et ça, les personnes ne le savent pas. Et du coup, de traiter les deux pans, ben, ça permet aux gens de venir « Ah, j'ai un problème » et voilà qu'on puisse le résoudre ensemble.
C'est ça, de comprendre comment d'où vient la question, et puis ensemble de travailler à comment on répare telle ou telle pièce, comment on ajoute des composants meilleurs, de la RAM ou je ne sais pas quoi, et ou comment on utilise tel système ou telle application.
Tout à fait.
Ouais.
Tout à fait. L'idée de base de l'association, le premier atelier qu'on a créé, c'était un atelier libre, un peu à l'image des ateliers vélo. On vient avec son ordi, son téléphone. Ouais. On ne sait pas ce qu'il y a. Il y a un problème. Il fait un bruit, il souffle, je sais pas, il est lent, etc. Ou sinon, on a identifié le problème. comme l'écran est cassé. Et le but de cet atelier, c'était de pouvoir trouver tous les outils à disposition, le savoir-faire et des pièces d'occasion. Voilà, c'est un peu le premier atelier qu'on a lancé, c'est celui-là.
Quand tu dis un atelier, ça veut dire ça fait combien de personnes à peu près qui viennent en même temps là pour faire les choses?
Alors là, on limite à 10 personnes sur 3 heures.
10, t'as dit, ou 6?
10.
10, d'accord, ok. Ouais, super. D'accord. Ouais. Et donc, toi, tu es en permanence dans cette association-là?
Moi, je suis salarié de l'association depuis février 2021.
Voilà.
Ouais. Et nous avions créé l'association en janvier 2020. Donc, c'est assez récent comme aventure associative.
Ouais, tout à fait. Mais vous avez réussi relativement rapidement à avoir donc de quoi payer un salaire et les cotisations salariales sociales qui vont avec.
Oui, on est deux salariés aujourd'hui. Mmh. Et on a plusieurs activités. Donc, il y a une activité d'atelier un peu comme j'expliquais, donc avec les ateliers libres. Mais notre atelier aussi à thème où, par exemple, là, jeudi, on va avoir un atelier rebooster sa machine. Donc, il y a tout le monde qui vient pour apprendre comment on peut faire pour qu'elle aille plus vite. Mmh. Ou la semaine prochaine, initiation en Ubuntu. On va avoir des ateliers à thème. Mmh. Ensuite, on va avoir des ateliers un peu ordinateur à 0 €. C'est-à-dire que là, les personnes viennent, elles n'ont pas d'ordinateur. Nous, on a récupéré des ordinateurs et à la fin, elles réparent avec nous et elles repartent gratuitement avec. Donc ça, c'est une action qu'on a un peu créée et qu'on est assez content d'avoir pu mettre ça en place. Mmh. Et donc ça, c'est un peu les activités d'atelier qu'il y a à l'association qui sont donc gratuites ou sous adhésion à partir de 10 €. Donc c'est des prix très faibles. Et après, nous, on va avoir des activités un peu plus rentables, entre guillemets, pour pouvoir financer tout ça. C'est on fait de la formation à l'extérieur. Qui est pour le coup sous forme de prestation. On est organisme de formation. Et également, on fait de la vente à travers du reconditionnement.
D'accord, vous avez réussi vous êtes organisme de formation. Vous avez réussi ça?
Voilà, on est organisme de formation.
Ouais, ça, c'est fort, parce que ça, vraiment, c'est un truc qui n'est pas simple du tout à mettre en place. C'est une paperasserie phénoménale. Ouais, bravo, trop cool. D'accord, et qui vous donne des ordis? Alors, ceux que vous allez ensuite soit revendre, soit donner?
Alors, les ordinateurs, on récupère majoritairement auprès de particuliers. Après, on récupère en point de collecte en déchetterie et auprès d'entreprises. Donc, voilà, on a fait 3 voies de collecte. En déchetterie, c'est un partenariat qu'on a avec les déchetteries de Toulouse. Mmh. Les particuliers doivent déposer à notre association pendant nos horaires d'ouverture et on a une liste de choses qu'on accepte. Donc, c'est, voilà, on prend des machines qui sont postérieures à 2011. On va avoir quand même... Voilà, 13 ans, 12 ans d'ancienneté maximum pour pouvoir en faire quelque chose pour nous. Mmh. Et après, les entreprises, on récupère sur place, on se déplace. Et de ces 3 collectes, on a 3 voies de sortie. Donc, comme j'ai expliqué, l'atelier à 0 €, donc il y a des PC qui vont gratuitement. Mmh. Le reconditionnement, c'est-à-dire que nous, on reconditionne avec des bénévoles, on revend. Et des pièces pour l'atelier libre. C'est-à-dire que voilà, les ordinateurs qu'on estime... irréparables, et ben on les démonte entièrement et on garde toutes les pièces qui sont fonctionnelles et les autres on les recycle.
Voilà. Alors quand tu dis on les recycle, vous avez trouvé des endroits, des lieux où pouvoir réellement faire du vrai entre guillemets recyclage, d'autres entreprises qui font du recyclage pour de bon, du plastique, alors, du fer, du métal, des choses.
Voilà, bon, le recyclage c'est toujours un mythe dans le numérique. Hein. On est à 7 à 15% aujourd'hui, mais dans l'idée même, en fait, il y a sur les cartes électroniques, on peut pas recycler parce qu'en fait, on sait faire des alliages métalliques, c'est-à-dire voilà, on va allier du fer, du cobalt, on va faire un alliage métallique avec plusieurs métaux pour additionner les propriétés physiques de chaque métal, mais par contre, on sait pas les défaire ces alliages métalliques.
C'est ça.
Donc dans tous les cas, toute la partie carte électronique. Le maximum qu'on fait faire aujourd'hui, c'est faire fondre et récupérer, on va dire, 20%, 10%, ouais, entre 10 et 20% voilà. Des métaux.
C'est ça, c'est ça. Mais donc, il y a des entreprises à Toulouse qui font ça, à qui vous pouvez donner ce matériel.
Voilà, on a une entreprise. Il faut savoir que, parce que toutes ces entreprises qui font du recyclage informatique se mettent derrière des normes européennes. Et c'est compliqué, vraiment. On avait commencé un partenariat, on s'est rendu compte que, en fait, ça partait en Afrique... On a arrêté à temps avant de donner.
Tout à fait.
Mais ils avaient une belle vitrine. Et là, on a trouvé une personne. Donc, les recyclages, ils sont Allemagne, Italie, Espagne. On a suivi. Mais voilà, il faut pas s'imaginer que c'est vraiment nous, c'est la dernière solution. C'est-à-dire que on a le plastique qui est pété en deux. Dans ce cas-là, on va pouvoir s'en servir.
Ouais.
Mais si le plastique est encore bon, on démonte tout et on le garde, ce plastique. Voilà. On va essayer de garder vraiment toutes les pièces au maximum.
Et alors, du coup, quand tu dis on le garde, ça appelle une autre question qui est nous aussi, on essaye en tant que de garder les choses, mais au bout d'un moment, notre local, il est un petit peu plein. Le lieu dans lequel vous êtes, là, j'ai vu un peu quelques images là, sur le site de la rebouterie, mais le lieu sur lequel vous êtes, c'est quelle surface, c'est quel emplacement dans Toulouse?
Alors, nous, on est en quartier populaire. On a donc l'emplacement, c'est un peu ça. Donc, c'est au Minimes. C'est un quartier dans le nord de Toulouse. Hein. Ouais. Il y a un petit quartier qui s'appelle les Mazades, dans les Minimes, voilà, c'est ça. Uh-huh. Et ensuite, en fait, on va avoir une salle d'ATD de 50 mètres carrés. Donc là, on accueille le public. Voilà, c'est pour ça qu'on va avoir des groupes de...
Ouais, c'est ça, 10 personnes. Ouais.
Un bureau de 10 mètres carrés pour les salariés. Et ensuite, derrière, une salle de stockage de 35 mètres carrés. C'est pas une grande salle de stockage. Mais en fait, nous, on s'en sort parce que vraiment, on démonte tout très rapidement. On garde pas les machines.
Ouais.
Les machines.
D'accord.
On a un logiciel de stock, on a un process de stock. On est vraiment très professionnalisé sur ce côté-là.
Wow. Qu'est-ce que vous utilisez comme logiciel de stock? Pardon, je t'ai coupé. Tu utilises quoi comme logiciel de stock?
C'est avec un logiciel libre qui s'appelle Dolibar. On peut gérer.
Ok, ouais, avec Dolibar. Ok, super.
Ouais, on peut gérer les stocks avec.
Bon, génial. Ben écoutez, super. La prochaine fois que je passe à Toulouse, je passe vous voir. Et j'invite tout le monde, les auditeuristes, à passer vous faire un signe aussi. Et si tu parlais de bénévolat, peut-être c'est l'occasion aussi là que des gens qui nous écouteraient, qui seraient à Toulouse, puissent passer vous voir. Merci beaucoup, Rémi. On va s'arrêter là. La chronique, je t'avais dit, c'est une petite chronique. On pourrait parler longtemps encore de plein des sujets qui sont les tiens et les nôtres. Mais ok, merci beaucoup à toi.
Et puis.
Bonne continuation, à très bientôt. Merci.
Bonne émission à vous, merci, au revoir.
Merci, ciao.
Eh bien, merci Isabelle et puis merci à Rémi. Je précise que Dolibar, en plus de gérer des stocks, en fait, gère une activité associative ou professionnelle complète, compte, gestion d'adhésion, etc. Je pense qu'on consacrera d'ailleurs un jour un sujet principal à ce logiciel libre qui est développé principalement en France. Donc c'était la chronique... Excusez-moi, chronique d'Antanac, j'étais perdu. Antanac qui sont nos voisines au 18 rue Bernard Dimet dans le 18e arrondissement de Paris. Donc n'hésitez pas à passer. Je vous rappelle d'ailleurs que chaque premier vendredi du mois, nous organisons un apéro donc au studio de la radio, donc au 22 rue Bernard Dimet. Et Isabelle est à chaque fois présente. Donc le prochain, c'est le premier vendredi de février. Donc de mémoire, je vais le tenter, 3 février 2023, de mémoire,
okay.
À partir de 19h.
Super, merci beaucoup.
Ben, merci à toi. Nous allons faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous parlerons d'Aaron Swartz, informaticien, militant des libertés informatiques et de la culture libre, décédé malheureusement il y a 10 ans à l'âge de 26 ans. En attendant, nous allons écouter Pas le temps par Odysseus. On se retrouve dans 2 minutes 40. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune, 93.1.
Amour et paix sur terre, tous les humains sont frères, libres et égaux, mais ce n'est que théoriquement. Augmentation des pauvres, et ça pendant que d'autres oppriment, exploitent ou s'enrichissent impunément. Un monde inique, pourrait-il en être autrement? Dis-moi si c'est possible et quand. L'obsession de produire est trop aveuglée par le règne de l'argent. On vit dans un mirage d'un ciel sans nuages et trop convaincu que tout dure infiniment. Remettre en cause et amorcer un changement. Crois-tu que c'est facile? On reste en pause, immobile ou indifférent. On sait mais on n'a pas le temps. Mais on n'a pas le temps. On n'a pas le temps.
Nous venons d'écouter Pas le temps par Odysseus, excusez-moi, la rentrée est difficile, disponible sous licence Art Libre.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Nous allons passer au sujet suivant. Donc, nous allons poursuivre par notre sujet principal qui va porter sur Aaron Swartz, cet informaticien militant des libertés informatiques et de la culture libre, décédé malheureusement il y a 10 ans, le 11 janvier 2013, à l'âge de 26 ans. Alors, le sujet a été préparé et va être animé par J, que vous avez l'habitude de retrouver dans ses chroniques habituelles, je crois que c'est la prochaine d'ailleurs, c'est mardi prochain, avec deux invités, donc au studio Amel Guiton et par téléphone normalement Flore Vasseur, donc je vais passer la parole à J et à ses invités.
Merci Fred. Alors, demain, effectivement, ça fera 10 ans que Aaron Swartz nous a quittés. Donc, Aaron Swartz, qui était un petit prodige de l'informatique, écrivain, militant politique et activiste américain. Mais il était avant tout un passionné de liberté, d'émancipation et de justice. Ça a donc été une perte immense pour les mouvements militants autour de ces questions lorsqu'il s'est donné la mort le 11 janvier 2013 à seulement 26 ans, à la suite d'un acharnement judiciaire sur lequel nous allons revenir en deuxième partie d'émission. Avant cela, nous allons parler de l'histoire d'Aaron Swartz, de tout ce qu'on lui doit, de ce qu'il a accompli au cours de sa trop courte vie, et on conclura en faisant un point sur son héritage tant technique qu'humain et politique. Et pour cela, effectivement, comme l'a dit Fred, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités. Donc tout d'abord, au téléphone, nous avons Flore Vasseur, qui est journaliste, cinéaste et bien sûr écrivaine, notamment du livre « Ce qui reste de nos rêves » qui raconte l'histoire d'Aaron Swartz, publié aux éditions des Équateurs en 2019. Bonjour Flore Vasseur.
Bonjour.
Et dans nos studios, nous recevons Amel Guiton, journaliste au quotidien Libération, spécialisée en sécurité informatique, également autrice de « Hacker au cœur de la résistance numérique », publiée aux éditions Au Diable Vauvert en 2013. Bonjour Amel Guiton.
Bonjour.
Alors, une première question peut-être, déjà, est-ce que j'ai oublié des choses en vous présentant toutes les deux, et comment vous en êtes venue à vous intéresser à l'histoire de Aaron Swartz? On va commencer par Flore Vasseur.
Oui, merci. Bonjour, bonjour à vous. Merci de faire cette émission, c'est important. Je suis tombée sur Aaron parce qu'il était sur mon chemin d'écrivain, d'activiste certainement. Moi, je me suis mise à écrire à la suite du 11 septembre. Je me suis mise à douter de tout ce qu'on nous racontait sur ce qu'était la liberté et nos idéaux. J'ai fait un gros parcours d'écriture et puis assez vite, je me suis intéressée à la figure des lanceurs d'alerte et de tous ceux qui doutaient en fait. Et Aaron a tout de suite été là. Je pense que lui et moi, on avait peut-être 20 ans d'écart, mais il y avait cette même rupture. Il y a eu cet même émerveillement. Enfin, je comprenais son émerveillement pour la technologie. J'ai pas du tout ses talents de codeur et de technicien, mais je comprenais et je pense que je souscrivais à cet idéal-là de ce que pouvait faire la technologie dans nos vies. Et Aaron a été l'un des premiers dès 2001. Même un petit peu avant, à voir que ça se retournerait contre nous. Et il nous a prévenus, moi j'ai commencé à vraiment comprendre ce qu'il racontait en 2007-2008, et puis je l'ai lu, car il écrivait beaucoup, vous l'avez dit, sur un blog où il mettait tout en gratuit, en licence libre, et je me suis toujours dit que c'était quelqu'un qui comptait et qu'un jour je raconterais. Je travaillais un peu avec Julian Assange à l'époque, je regardais la figure du lanceur d'alerte, je me disais que j'avais le temps. Et puis Aaron s'est suicidé, et là j'ai tout arrêté. Et je me suis dit qu'on avait perdu quelqu'un de tout à fait majeur, qu'on était passé à côté de lui, que c'était une perte immense. Et j'ai passé 4 ans de ma vie à essayer de comprendre pourquoi il s'était suicidé en fait. Parce que son désarroi, sa colère, son idéal de justice, son idéal de liberté me parlaient plus que tout en fait. Et voilà pourquoi et comment j'ai croisé sa route.
Merci. Amel, du coup, même question. Comment vous êtes venu à vous intéresser à Aaron Swartz?
Alors moi, j'ai pas passé 4 ans à travailler exclusivement sur le personnage, mais c'est un nom qu'on croise inévitablement quand on s'intéresse à l'histoire de l'Internet, aux impacts politiques et sociaux de l'Internet, qui est en gros le sujet qui fait, on va dire, un peu le fil à plomb du travail que j'essaie de faire depuis quelques années. Et donc, c'était un nom que j'avais croisé évidemment avant sa mort et que j'ai croisé aussi beaucoup après, parce que c'est en fait c'est ça qui est assez frappant, c'est que mais on en parlera. Il a été investi dans beaucoup de projets portés par des figures des libertés sur Internet, du partage de la culture, de l'accès à la connaissance. Il a initié certains de ces projets, donc il a laissé des traces. Et puis, ce qui est extrêmement frappant, c'est qu'en fait, il reste depuis sa mort une figure un peu symbolique, une figure assez iconique, une figure d'inspiration aussi, parce que c'est, je m'y suis justement replongée à l'occasion des 10 ans de sa mort, et c'est ça qui est assez frappant. C'est d'abord, ça reste un souvenir très vivace pour ceux qui l'ont connu et ceux qui l'ont côtoyé de très près. Je pense à quelqu'un comme Lawrence Lessig, par exemple. Je pense à Tim Berners-Lee, enfin, qui sont des noms sur lesquels on reviendra, mais même très très au-delà, je veux dire, dans toute la, on va dire la grande communauté entre guillemets des militants, enfin des activistes numériques, il reste une figure marquante, alors même que cet activisme lui-même a évolué, alors même que les on va dire les lignes de front ou les batailles se sont en partie déplacées, il y a quelque chose qui reste, peut-être aussi parce qu'il incarne toujours aujourd'hui la force d'une utopie qui, même si elle se heurte en permanence au mur d'une réalité qui est on va dire quand même assez dystopique à bien des égards, il reste cette figure justement d'inspiration et de mobilisation.
Très bien, oui. Alors, une des choses pour les gens qui nous écoutent, qui ne connaîtraient pas Aaron Swartz, il y a quelque chose qui est assez surprenant finalement. Tout à l'heure, donc, Flore Vasseur nous disait qu'elle s'y était intéressée dès 2001-2002, et j'ai dit qu'il était décédé à 26 ans en 2013. Donc, ce qui nous montre quand même qu'il a fait des choses très très jeunes. Et du coup, comment finalement un tout petit garçon à 12-13 ans arrive à participer, vous avez parlé de Lawrence Lessig, donc il a participé avec lui notamment à la création des licences Creative Commons, c'est quand même quelque chose d'énorme, et il avait, je crois, 13 ou 14 ans à ce moment-là.
Alors, c'est toujours un peu compliqué d'utiliser le terme de génie, parce qu'il est très galvaudé, mais il y a quand même de manière évidente une précocité intellectuelle assez incroyable, et une agilité effectivement avec l'outil informatique qui est aussi incroyable. Il y a un documentaire qui est sorti en 2014 qui a été réalisé par Brian Knappenberger, qui s'appelle The Internet Sound Boy, et on voit ça très bien, y compris parce qu'il est nourri d'images d'archives données par la famille, donc on le voit effectivement tout petit, c'est un enfant très précoce, c'est un enfant très curieux, et surtout c'est un enfant qui, moi c'est ça que je trouve extrêmement frappant, c'est que cette formule en fait de l'enfant d'Internet, elle est très juste, je trouve, parce qu'elle dit quelque chose du fait que pour lui, c'était quelque chose de très naturel, c'était un milieu très naturel, et du coup, il a eu des intuitions, effectivement, qui peuvent sembler assez bluffantes, en particulier pour un enfant de son âge, c'est-à-dire que quand à 12 ans, il invente un quasi Wikipédia avec quelques années d'avance, qui s'appelle The Information Network, à l'époque il a un prix, je crois, dans le système éducatif, mais c'est très marrant d'ailleurs, parce que dans le documentaire, un de ses frères dit, un de ses profs lui avait dit, mais enfin, quelle idée d'imaginer que ce soit en gros à des profanes qui puissent établir un genre d'encyclopédie, ou en tout cas, enfin voilà, que l'information soit délivrée par des gens qui ne sont pas des experts. Or lui, il avait saisi ça avant tout le monde, c'est-à-dire entre guillemets, l'intelligence du travail collaboratif en soi, c'est quelque chose qu'il avait saisi très tôt. Donc il y a effectivement à la fois l'âge auquel il commence à faire des choses qui effectivement est très surprenant et évidemment remarquable, mais il y a aussi, je trouve, sa perception, sa capacité à sentir, à comprendre ce qu'est l'Internet, comment ça marche et en tout cas comment ça doit fonctionner selon l'idée qu'il s'en fait, qui est aussi une idée qu'il partage effectivement avec, entre guillemets, ce qu'on appelle les pères fondateurs de l'Internet. Mais quand il travaille sur RSS, effectivement il est très jeune, donc ce protocole qui permet la syndication d'informations, vous expliquerez ça mieux que moi pour le coup, mais il a, je crois, 12 ou 13 ans, quelque chose comme ça, et les gens qui découvrent qu'en fait ils échangent depuis des mois en ligne avec un gamin de 12 ou 13 ans sont complètement bluffés, et quand il rejoint l'équipe de Creative Commons, qui est une intuition incroyable de Lawrence Lessig, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais cette idée de créer un cadre juridique pour le partage des œuvres, effectivement c'est en soi une œuvre intellectuelle remarquable, et il va être dans l'équipe, il va en faire l'architecture informatique. Il a effectivement 14 ans, donc oui, c'est à la fois, il est très jeune et il est déjà complètement en phase avec effectivement des gens qui ont 10, 20, voire 30 ans de plus que lui.
Et vous, Flore Horvasseur, votre sentiment lorsque vous lisiez à cette époque, hein, du coup, les écrits de Aaron Swartz, de vous dire que c'était bah, finalement quelqu'un de très jeune, hein, finalement, pour faire ce genre de choses, donc 13-14 ans, ça vous faisait quel effet d'avoir ce genre d'écrit ?
Moi, j'ai pas. Je pense que, comme exactement tout le monde qui a travaillé de près ou de loin avec Aaron, la question de l'âge est quelque chose qui nous a explosé à la figure au dernier moment. Et d'ailleurs, s'il a pu travailler avec Tim Berners-Lee pendant longtemps, il a travaillé à distance, planqué derrière son ordinateur. Et c'est uniquement quand il est venu au MIT physiquement qu'ils ont vu débarquer un Lilliputien coincé sous son cartable et qu'ils ont cru que cette personne s'était trompée d'étage. Et ils sont tous tombés à la renverse. Donc, la question de Aaron, l'âge d'Aaron n'est pas la raison pour laquelle les personnes ont travaillé avec elle. L'âge d'Aaron est peut-être quelque chose qui l'a piégé d'ailleurs. Parce que pour moi, ce que je comprends de son suicide, c'est que il était trop jeune pour encaisser tout ça. Il n'avait pas la maturité. Il y a un moment, au-delà des idées, au-delà de l'idéal, au-delà des valeurs, il faut la surface affective, il faut la solidité aussi de ce que vous enseigne la vie. Et en fait, c'est comme si Aaron avait été balancé dans le grand bain, sous acide, sans protection, alors que ses parents l'ont protégé. Tous les adultes, Tim Berners-Lee, Lawrence Lessig, qui pour moi est une personne qui compte infiniment dans ma vie, ils n'ont eu de cesse de le protéger. Ils n'ont eu de cesse que d'essayer de prendre soin de lui. Mais cet enfant, c'était comme une espèce de sortie de corps, en fait. Il avait ces fulgurances incroyables que peut-être certains approchent à 25, 35, 50 ans, mais il les a eus à 12, 13 ans. Et il y avait une partie, peut-être, de son psychisme qui n'était pas prêt à encaisser ça. Donc, je voudrais aller au-delà de le miracle de l'enfant génie. C'est une tare. C'est une tare d'être aussi brillant si jeune. C'est comment résister à cette folie-là? Comment résister à ces informations-là que parfois, le langage ne sait pas saisir. Et d'ailleurs, alors vous allez dire je suis romancière, mais je crois que c'est pour ça que vous m'avez invitée. Aaron a eu des énormes problèmes physiologiques. Il était taraudé, vrillé des journées entières sur son canapé à cause de colites néphrétiques. D'où ça vient? Pourquoi? Comment? On n'a jamais su l'expliquer. Bah, moi, je pense très nettement que son corps n'encaissait pas. Et ça a contribué à cet itinéraire de comète, mais aussi avec des moments de joie immenses, mais avec une douleur, en fait, et physique. Et je pense qu'on n'interroge jamais assez, en fait, le prix que payent ces génies-là, de leur vie, mais aussi de leur corps et de leur temps, en fait. Voilà.
D'accord. Alors, je fais juste une petite parenthèse pour les gens qui nous écoutent. On a parlé de deux personnes, donc qui sont Tim Berners-Lee. Donc lui, c'est l'inventeur du World Wide Web, donc de la partie d'internet qu'on utilise le plus couramment, et Lawrence Lessig, qui est juriste américain spécialisé dans la propriété intellectuelle, donc à l'origine notamment des Creative Commons qu'on utilise. Oui,
Tim Berners-Lee qui est britannique, je me permets de le rappeler parce que c'est toujours intéressant de se souvenir que le web a été inventé en fait en Europe et en particulier au CERN en Suisse. On a parfois cette espèce de complexe vis-à-vis du numérique qui serait totalement dominé par les États-Unis. L'histoire est heureusement plus complexe.
Effectivement, oui. Alors, pour en revenir à Aaron Swartz, donc on va pas forcément épiloguer sur tout le côté technique. Voilà, on pourrait citer aussi le fait qu'il a participé à la création des flux RSS, du site web Reddit, alors qui n'est pas extrêmement connu en France, mais qui est un site extrêmement populaire aux États-Unis, Markdown, on a parlé des Creative Commons. Mais finalement, ce qui aussi caractérise beaucoup le personnage de Aaron Swartz, c'est son côté militant. Et c'est probablement une des choses, effectivement, comme le disait Flore Vasseur, qui a eu un énorme impact sur sa vie, jusqu'à un impact assez tragique. Donc, Amel, qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, juste peut-être revenir un petit instant quand même sur les Creative Creative Commons, parce que effectivement, il en a assuré le développement technique, hein, mais pour le coup, c'est très militant, les Creative Commons. C'est-à-dire que c'est y compris, ça, c'est, on le doit, et Flore Vasseur le disait à quelqu'un qui était un esprit effectivement extrêmement brillant, qui est Laurence Lessig, mais c'est la première réussite en termes d'encadrement juridique du partage sur Internet, du partage de la culture sur Internet. Et en fait, s'il y a, on va dire, une extrême cohérence en fait dans la vie de et dans l'action de Swartz, mais comme il y a chez les gens justement avec qui il a monté des projets, chez les gens qu'il a côtoyé, c'est un système de valeurs, c'est-à-dire que on est dans l'idée que l'information doit circuler, que la connaissance doit être accessible, que la culture doit se partager et que les pouvoirs doivent être transparents. Et ça, c'est vraiment, j'allais dire, c'est presque un paquet de manière générale qu'on retrouve dans le militantisme numérique de l'époque, et c'est effectivement quelque chose qui a été une espèce de marqueur en fait de tout là, à peu près, je pense en réalité. Bon, Reddit, c'est un peu particulier parce que il était dans un moment, on va dire, c'est un peu son moment start-up, qui a été en réalité très court parce que très vite il s'est senti en décalage en fait avec cette histoire-là, mais c'est presque l'ensemble de ce à quoi il a participé ou de ce qu'il a initié est vraiment guidé par ces idées de l'accès à la connaissance, du partage de la culture et de la transparence des pouvoirs, et on le retrouve y compris jusqu'à SecureDrop, qui est donc ce logiciel qui permet la transmission de documents confidentiels et qui est aujourd'hui utilisé par le Guardian, le New York Times ou Forbidden Stories d'ailleurs, qui est le collectif de journalistes à l'origine des révélations sur Pegasus. C'est avec Kevin Poulsen, qui est donc un ancien pirate informatique reconverti dans le journalisme, qui l'imagine SecureDrop, et on sent bien aussi à quel point d'ailleurs c'est inspiré de Wikileaks, cette histoire-là. Donc il y a vraiment un fil qui court sur cette trop courte vie et cette action effectivement très militante. Ce qui est aussi assez frappant d'ailleurs, c'est que sur la fin de sa vie en particulier, dans les dernières années, on sentait aussi qu'il allait de manière générale, qu'il y avait une ouverture à des questions qui n'étaient pas que numériques, mais c'est... Bon, il y a de toute façon eu, j'ai l'impression, hein, entre Laurence Lessig et lui, beaucoup de conversations, et Lessig, à ce moment-là, était déjà engagé dans sa bataille contre la corruption du système politique américain. Mais Swartz avait, en 2010, co-créé une ONG qui s'appelle Demand Progress, et dont le périmètre va bien au-delà de ces seules questions. Donc on est à la fois, effectivement, sur ce noyau dur de, on va dire, des idéaux des pionniers de l'Internet, hein, sur la décentralisation, la liberté, le partage, la transparence, mais il y a un cheminement aussi qui va vers quelque chose de plus large et de très clairement politique.
Oui, d'ailleurs, tout à l'heure, on parlait du 11 septembre 2001. C'est vrai qu'il a été aussi, en opposition au Patriot Act, ce qui, dans un contexte post 11 septembre aux États-Unis, n'était pas forcément une position évidente à assumer. Est-ce que nous avons encore Flore Vasseur au téléphone ?
Ah, j'explique juste que les petits bips que vous entendez, c'est quand on a un problème de connexion avec Flore Vasseur, mais Thierry qui est en régie va la rappeler.
Très bien. Donc, bah, en attendant, oui, effectivement, Patriot Act, j'en parlais, est aussi opposé à SOPA. Et il avait effectivement, de manière plus large, cette participation à tout ce qui est open data, de regarder sur les données gouvernementales. Il y a eu watchdog.net, par exemple. On pourrait aussi parler du je sais pas comment on dit, passeur ou pacer.
Pacer.
Pacer, c'est ça. Donc, Public Access to Court Electronic Records. Donc,
qui était un peu, c'est quelque chose d'ailleurs qu'on a retrouvé, enfin, qu'on va retrouver quelques années plus tard dans l'affaire qui lui vaut ses démêlés judiciaires. Ce qui s'est passé avec Pacer, c'est qu'on est donc face à une base de données juridiques. Donc, la justice doit être ouverte à tous, hein, que ce soit en France ou aux États-Unis. Sauf que pour les obtenir, il fallait payer. Alors, payer certes une somme modique, mais multiplié par le nombre de pages, ça peut vite faire beaucoup. Et puis surtout, lui, il considérait par principe que ça devait être accessible au public. Donc il y avait déjà un projet pour rendre la base de données, enfin les documents qui étaient dans la base de données Pacer accessibles, mais qui étaient abondés, on va dire, de manière un peu à l'huile de de coude par des gens qui, en gros, apportaient à la personne qui avait monté ce projet les documents que eux-mêmes avaient téléchargés. Et ce qu'a fait Aaron Swartz, c'est qu'il a automatisé le téléchargement de manière à reconstituer cette base de données et à la mettre en accès libre. Ce qui est à signaler d'ailleurs, parce que c'est évidemment pas anodin, c'est que ça lui a valu sa première enquête par le FBI et que les poursuites ont fini par être abandonnées parce qu'il a quand même bien fallu se rendre compte qu'il n'avait absolument rien fait d'illégal en l'occurrence, puisque c'était des documents qui étaient censés être accessibles au public.
Oui, Flora Vasseur.
Alors c'est très étonnant, mais c'est un point de détail dont on discutera à Maëlle et moi, mais alors pour le coup je suis pas du tout d'accord sur le fait que les poursuites ont été abandonnées.
Sur Pacer?
Ah pardon, excusez-moi, sur Pacer.
Non, je parlais que de Pacer, évidemment, oui, okay. JSTOR c'est une autre affaire, et oui. Précisément elles n'ont pas été abandonnées du tout.
Et ça aussi on va en parler effectivement après la pause musicale. Oui, Flore Vasseur, donc du coup, au moment où on a été coupé, donc on parlait de son opposition au Patriot Act et du fait que finalement sa militance effectivement s'est étendue au-delà du numérique pour aller finalement un peu déranger certaines instances gouvernementales. C'est quand même quelque chose qui a beaucoup joué dans sa vie.
Oui, alors moi je dirais que pour les idéaux dont on parlait, dont a parlé Amaël sont justes, mais en fait pour lui la technologie n'était qu'un outil, et ce dès le démarrage, au service de cet idéal. Quand il écrit les prémices de Wikipédia, il est déjà dans un acte militant et il a 12 ans. Tout ce qu'il fait, même son écriture, enfin tout est militant en fait, tout est engagé, tout est partage, tout est recherche d'un idéal, le partage de la connaissance, l'élévation des populations avec la connaissance. C'est vraiment son cheval de bataille. Alors, il ne le formalise pas nécessairement, mais c'est quelqu'un qui est passionné par ça et qui voit dans la technologie le moyen de le faire. Mais la technologie, puis assez vite, d'autres choses. Et pour le coup, je voudrais revenir sur la relation entre Larry et Aaron, parce qu'elle est clé. Et c'est Aaron qui fait bifurquer très vite Larry Lessig et qu'il fait sortir des Creative Commons, enfin de toute la point de focalisation qu'il a mis sur les Creative Commons pour aller sur la dénonciation de l'influence dans l'argent en politique. Parce qu'en fait, Aaron le voit avant Larry et il le cornérise en lui disant « Mais qu'est-ce que tu vas faire de ta vie tant que tu ne t'adresseras pas au problème le plus important, l'influence de l'argent ?» en politique, tu ne toucheras à rien. Et donc il est encore dans la technologie, mais il voit que la technologie va être vérolée et est très vite vrillée par l'influence de l'argent. Et il voit très bien que c'est quelque chose d'absolument systémique qui se passe sur exactement tous les pans de la vie. Donc c'est pas Larry qui fait bifurquer Aaron, c'est Aaron qui fait bifurquer Harry. Lui-même, il m'a engineered. C'est quelqu'un qui, à force de questions, vous faisait totalement bifurquer. Et donc, tout est politique chez Aaron. Dès la première ligne de code, parce qu'il le dit lui-même. Il dit « j'ai pas le temps pour faire autre chose ». Ne gaspillez pas mon temps. Il est hyper dur avec les autres. Il est complètement omnubilé par son temps et par ce mot affreux, maximisation de son temps, mais par son efficacité. Et tout ce qu'il aura développé n'est que le brouillon du truc d'après. Il apprend. C'est une énorme courbe d'apprentissage. Et ça, je voudrais vraiment qu'on insiste, parce que on parle beaucoup de technologies, de choses qui, c'est vrai, ont existé. Mais moi, je voudrais qu'on voit la courbe d'apprentissage à l'œuvre, effectivement, ce qu'il a légué au fur et à mesure, dont on se sert encore, le flux RSS, Reddit, on peut dire c'est son côté start-up, c'est son moment start-up, n'empêche qu'il a gagné les moyens de pouvoir être totalement libre derrière. Parce que oui, il faisait partie des trois fondateurs et qu'il a très très vite vendu, et qu'après il s'est dit, maintenant je vais ne faire que ce que j'aime, c'est-à-dire être utile. Et cet engagement-là, et juste fou en fait. Surtout dans un moment où effectivement, il y a le Patriot Act, les choses commencent à être sur la table pour qui regarde de près ce qui est en train de se passer. Avec non seulement les outils d'un côté, la menace terroriste de l'autre, la façon dont les pouvoirs s'en servent pour se retourner contre les populations. Aaron le voit, 2003-2004, il commence à écrire les premiers textes là-dessus. On va mettre 15 ans à comprendre.
Ok, merci. Donc je vous propose qu'on fasse la pause musicale maintenant.
Écoutez, avec plaisir. Je vais juste peut-être préciser que par rapport à ce que vous venez de dire, Florent Vasseur, que la Relay 6 était lancée dans la primaire démocrate, je crois, en 2015, pour réparer justement la démocratie, lutter contre la corruption, donc suite aux propos que vient d'expliquer, enfin, ce que vient d'expliquer Flore Vasseur. Donc on va effectivement faire une pause musicale, mais on va rester dans le thème. Vous venez d'écouter la voix de G. Ben, maintenant, vous allez voir le G qui a une chanson qu'il a consacrée il y a quelques années justement à Aaron Swartz. On se retrouve dans environ 4 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Commune. La grande machine a broyé par toi nous a vaincus. Entrer dans notre beau confort, on croyait à une guerre sans mort. Croyait-on même à une guerre, notre contestation tranquille. Et le réveil est amer et plus rien n'est paisible quand on assassine les génies qui rayonnent et glorifient les vendeurs de téléphones. Baron Aaron, pour ce que l'on donne, combien de frères qu'on emprisonne, combien de luttes qu'on abandonne. Aaron, les sanguinaires, de guerre lasse qu'on les atterre. C'est qu'ils souffrent et qu'on est fiers. 26 printemps, combien d'hivers. Edward a fui, Julian se cache, et combien de tombes anonymes. De droit par travers, qu'on arrache, la contre-attaque est légitime. Quand l'ennemi est devenu intérieur, avec pour seules armes nos peurs. Non, dans le contrat, pour quelle excuse on marche au pas. Des biens communs aux fosses communes, tu paies le prix fort de la thune. Et ceux sont vainqueurs, pas de médaille, pas de légion d'honneur. Pour ce que l'on donne, combien de frères qu'on emprisonne, combien de luttes qu'on abandonne. Aaron, les sanguinaires, de guerre lasse tombe la terre. C'est qu'ils souffrent dès qu'on est fier. 26 printemps, combien d'hiver.
Par notre ami G qui anime l'émission du jour, disponible sous licence libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions, CC BY SA.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Donc nous allons poursuivre notre sujet principal qui porte donc sur Aaron Swartz, donc sujet préparé et animé par G et avec ses invités Flore Vasseur et Amaël Guiton. Je vous repasse la parole.
Alors oui, tout à l'heure j'ai introduit l'émission en disant que Aaron Swartz s'était suicidé suite à une affaire d'acharnement judiciaire, et donc c'est de cette affaire qu'on va parler maintenant. Donc le mot a déjà été dit tout à l'heure, c'est l'affaire JSTOR. Donc en quoi ça consiste cette affaire?
En fait, JSTOR c'est donc une bibliothèque, base de données de revues scientifiques. C'est un catalogue absolument énorme. La question de la propriété intellectuelle autour des revues scientifiques est une question qui est extrêmement sensible et qui est un champ de bataille depuis des années. Il y a beaucoup de gens qui ont déjà, depuis longtemps, dénoncé cet écosystème qui effectivement fait que l'accès à la connaissance scientifique est difficile et par définition payant, et que en plus même pour les chercheurs eux-mêmes, c'est une vraie difficulté. Et donc on comprend bien tout ce qui pouvait pousser quelqu'un comme Swartz à essayer de casser cette barrière-là. Et en fait, ce qui s'est passé très concrètement, c'est que il a téléchargé donc des millions d'articles scientifiques dans la base JSTOR depuis un local du MIT dans lequel il avait glissé un ordinateur. Il a été filmé, il a été arrêté, il y a eu une longue enquête et surtout il y a effectivement eu des poursuites qui étaient extrêmement lourdes, puisque je crois qu'au début on parlait de 4 chefs d'inculpation et donc d'une peine maximale de 35 ans de prison. Sur la fin, il y a eu une inculpation supplémentaire, ce qu'on appelle un superseding indictment dans le jargon juridique américain. On était passé à 13 chefs d'inculpation et à une peine maximale théorique de 50 ans. Bon, on voit bien effectivement la disproportion. Après, évidemment, dans les faits, les réquisitions hypothétiques du procureur étaient plus courtes, mais elles étaient déjà énormes. C'est-à-dire que, et puis il y a aussi derrière ça tout le problème du plaidé coupable, qui est un problème qui n'a pas touché que Aaron Swartz, mais qui est un problème de manière générale dans la société américaine. Dans son cas, le bureau du procureur lui proposait de requérir 6 mois de prison s'il reconnaissait l'intégralité des charges, et sinon c'était 7 ans. Donc on voit quand même bien qu'il y a quelque chose là qui ne fonctionne absolument pas. Et d'ailleurs, au lendemain du suicide d'Aaron Swartz, Lessig l'a écrit sur son blog, en parlant de honte dans ce qui s'était passé dans cette procédure judiciaire. Mais ce qui est aussi très problématique, c'est que aux États-Unis, une condamnation pour crime fédéral veut dire que pendant des années et parfois même à vie, parce qu'en plus ça dépend des États, on ne peut pas concourir à une élection, on ne peut pas prétendre à un poste dans l'administration. Et pour quelqu'un qui précisément voulait s'engager aussi dans quelque chose de plus politique, c'était inique et c'était insupportable. Donc après, bon, c'est évidemment, c'est toujours complexe de déterminer la part de ce qui a pu le pousser à commettre l'irréparable, mais c'est bien évident qu'une procédure telle que celle-ci ne peut évidemment pas arranger les choses et a de quoi désespérer. Donc en tout cas, voilà pour effectivement ce qu'était les faits et ce qu'on ne peut voir que comme une disproportion entre les faits concernés et les poursuites. Je rajoute juste qu'effectivement manifestement, il y avait sans doute une volonté de faire un exemple, y compris d'ailleurs parce que JSTOR ne l'a pas poursuivi en tant que tel, mais le bureau du procureur a continué, lui, les poursuites, alors même qu'il avait redonné le disque dur sur lequel il y avait les fichiers. Donc il y a effectivement, du côté du procureur, l'idée manifestement d'aller jusqu'au bout. Et je ne sais plus exactement ce sur quoi je voulais insister. au départ. Mais voilà, on est effectivement dans ce moment-là où en plus tout ça a coûté évidemment fort cher. Il était arrivé manifestement, de ce que j'ai pu en lire, dans un état à la fois de détresse psychique très forte et y compris de difficultés financières, avec une difficulté y compris à s'en ouvrir autour de lui ou à demander de l'aide. C'est pareil, c'est de ce que j'en ai lu, hein. Je ne l'ai pas moi-même rencontré, mais il avait beaucoup de mal en fait à demander de l'aide, et donc à un moment donné il s'est retrouvé visiblement cornérisé.
Oui, donc effectivement, le fait que les gens derrière la base de données Gestor n'est pas poursuivi et que le bureau du procureur ait maintenu les poursuites, ça oui, ça, c'est pour ça, c'est une des raisons qui faisait que je parlais d'acharnement judiciaire effectivement au début.
Est-ce que je peux me permettre d'intervenir?
Bien sûr.
Je pense qu'il faut absolument rappeler le contexte de l'époque, parce que sinon c'est incompréhensible, et je pense que les grands temps qu'on fasse des liens avec les affaires de l'époque. Tout ça se passe dans le contexte de l'arrestation de Julian Assange, ou en tout cas de la traque, plus exactement, de Julian Assange, suite à la révélation et la publication des câbles diplomatiques par Wikileaks. Et à ce moment-là, les États-Unis, le gouvernement Obama, est pris totalement sur le fait de ce qu'il est en train de faire en Irak. Souvenez-vous de cette vidéo incroyable, Collateral Damage, avec des militaires qui tirent à bout portant d'un hélicoptère Apache sur la population en Irak. Tout à coup, on retourne la jolie petite histoire du grand pays pourvoyeur de démocratie. Je ne sais pas si encore beaucoup de gens y croient à l'époque, mais en tout cas, voilà. Et voilà quelqu'un qui éclabousse totalement le gouvernement américain. Souvenez-vous, Barack Obama, prix Nobel de la paix, etc. Et il y a une énorme chasse aux sorcières qui est lancée auprès de tout ce qui pourrait, de près ou de loin, approcher les soutiens de Wikileaks. Je dis absolument pas que Aaron en était. Je j'ai rien à dire là-dessus. Mais toujours est-il qu'il faut comprendre que ça devient un énorme sujet pour le gouvernement américain. Et on a beaucoup tendance à faire de Barack Obama un très grand pourfendeur de la liberté, etc. Moi, j'ai une vision très, très différente depuis que j'ai travaillé sur cette affaire. Et le MIT, qui est le bras armé du Pentagone pour la recherche militaire, est un lieu stratégique. On ne fait pas n'importe quoi au MIT. Même si vous allez au MIT et il y a la culture du hacker, du grand hack, ils expliquent comment, grâce à coups de hack, on a réussi à faire des grandes prouesses technologiques, etc. Il y a ce discours, mais il y a aussi la réalité purement militaire et économique. Et Aaron, probablement, n'a pas... est victime de ça, et de cette cabale lancée, surtout à nouveau, tous les soutiens de Wikileaks, et les étudiants sont surveillés, etc., etc. Il n'y aurait jamais eu cet acharnement s'il n'y avait pas eu l'affaire Wikileaks en même temps. Je pense que c'est vraiment un dommage collatéral, pour le coup, pour reprendre. Caron est un dommage collatéral de Wikileaks et de la façon dont les câbles diplomatiques ont été publiés. C'est pour ça qu'il y a eu cet acharnement, c'est pour ça qu'il y a eu cette violence d'État contre Aaron. Ils ont voulu faire un exemple à Maël, à bien des égards, a tout à fait raison, parce qu'ils voulaient effrayer tout le monde. Ils voulaient que plus jamais quelqu'un ne réussisse à faire ce que Julian Assange avait réussi à faire.
Alors moi, j'ai pas assez d'éléments pour tracer de manière aussi franche une ligne entre ce qui se passe autour de Wikileaks et ce qui s'est passé autour d'Aaron Swartz. Je voudrais juste quand même ajouter qu'à l'époque, il y a de vraies batailles qui continuent d'ailleurs à bien des égards autour de la question de la propriété intellectuelle quand même. C'est-à-dire qu'on est aussi dans un moment... Enfin, il faut pas s'imaginer que ne serait-ce que la création des licences Creative Commons a fait vachement plaisir à l'époque, notamment aux industries culturelles. On sait que c'est un terrain d'affrontement extrêmement fort aussi. Il l'était à l'époque, y compris parce que la question du partage de la culture, peut-être d'ailleurs plus qu'aujourd'hui, hein, je pense, était quelque chose qui était très présent dans le débat public. Je dis que ça l'était sans doute plus qu'aujourd'hui, parce que j'ai l'impression que ces questions-là, pour plein de raisons sur lesquelles on reviendra peut-être, elles sont un peu passées à l'arrière-plan d'autres luttes plus difficiles, ou on va dire plus plus urgente peut-être, mais en tout cas, à l'époque, cette question-là était, elle était extrêmement forte. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas comprendre cette procédure judiciaire contre Aaron Swartz en dehors de l'affrontement à minima, de l'affrontement spécifique sur la propriété intellectuelle et des enjeux qui sont évidemment autour, qui sont y compris des enjeux économiques très forts.
Oui, mais alors, enfin, bon, ça c'est un débat qu'on aura entre nous, mais franchement, par rapport au poids de l'influence diplomatique des États-Unis dans le monde, je pense que ça a pesé moins. Et honnêtement, G-Store, après, a été très, très éclaboussé par cette affaire. Comme vous l'avez dit, Maël, ils n'ont pas attaqué, eux, et ils se sont retrouvés au milieu de cette affaire. Ça a été pas génial pour leur marque. Et d'ailleurs, ils ont libéré une partie du contenu derrière. Je voudrais rappeler quand même que la fondation Bill Gates, quand même le roi de la propriété intellectuelle, a décidé que sa fondation n'octroierait plus jamais aucun financement à des associations, à des projets qui ne partageraient pas en libre accès leurs résultats. Donc, et ça, c'est éminemment lié aussi à ce qui s'est passé autour d'Aaron sur le combat même de la question de la propriété intellectuelle et de la recherche. Alors au-delà de je ne parle pas de l'industrie de l'entertainment auquel Aaron, sur cette affaire-là, ne s'est pas attaqué. Il s'est attaqué aux documents de recherche et à la recherche académique dans le monde et à sa capacité à circuler pleinement pour le bien-être de l'humanité. Là-dessus, son suicide, sa disparition n'a pas été sans effet d'ailleurs.
D'ailleurs, ça me permet de faire la transition. Je voulais pas qu'on termine cette émission sans parler de l'héritage de Aaron Swartz, donc parce qu'il nous a quittés, on l'a dit, hein, donc ça fera 10 ans demain. Mais ben, bon, encore une fois, on va passer très vite sur les aspects techniques. Le RSS, même s'il est abandonné par les GAFAM et compagnie, ça reste quand même une brique très importante d'Internet. Reddit, 6e site le plus consulté aux États-Unis. Les Creative Commons, maintenant, sont devenus massivement utilisés. Cette émission de radio est sous licence Creative Commons, si je dis pas de bêtises, non ?
Alors, je peux même préciser que les flux RSS sont très utilisés dans les podcasts, oui. Parce qu'une façon de s'inscrire et de suivre un podcast, c'est via un flux RSS.
Mais bien sûr, l'héritage le plus important, il est sans doute sur tout ce qui est open data. Donc, il y a eu pas mal de choses qui me voulaient depuis ce temps-là. Amel Guiton, vous pouvez nous en parler ?
Bah, c'est probablement d'ailleurs le champ dans lequel les choses ont le plus progressé depuis la mort d'Aaron Swartz. C'est la question des publications, ce qu'on appelle en open access, donc en accès ouvert, et de manière générale l'accès aux publications scientifiques. J'ai un papier qui sort demain justement là-dessus, et j'ai eu un échange assez rapide sur le sujet avec Brewster Kahle, qui est donc le fondateur de l'Internet Archive, qui a travaillé avec Aaron Swartz sur l'Open Library, qui est donc à la fois un catalogue et une bibliothèque numérique. Et il soulignait, et à très juste titre, qu'en fait, l'accès ouvert est devenu un élément de politique publique, y compris, c'est le cas aux États-Unis avec, je crois, une directive de l'administration en début d'année là-dessus. C'est qu'en gros, à partir du moment où on fait de la recherche publique, eh ben, il faut publier en accès ouvert. C'est aussi le cas en France avec le plan dit science ouverte, etc. Donc on voit effectivement que là-dessus, il y a eu des avancées, en particulier sur l'idée qui, à l'époque, n'était pas tout à fait aussi évidente que quand on fait de la recherche publique, les résultats doivent être par définition publics. Donc si c'est autant sur d'autres domaines dans lesquels Aaron Swartz est intervenu, il y a eu des, on va dire, des retours de bâton, hein. Autant, au moins dans ce champ-là, il y a eu de vrais progrès. Et alors, y compris, c'est en France, il y a eu pas mal de discussions là-dessus il y a quelques années au moment des débats sur la loi Lemaire. On va dire, il y a des pas qui ont quand même été franchis. C'est parfois long, c'est complexe, etc. Et puis, on voit que dans d'autres champs, par contre, ça progresse quand même beaucoup moins. Mais en tout cas, de ce point de vue-là, il y a eu de vraies avancées. Oui, c'est quand même pas de petites victoires.
Flore Vasseur, vous voulez réagir à ce sujet aussi ?
Non, mais je suis d'accord sur l'aspect technique et sur le L'héritage et la façon dont le milieu en fait a réagi à ce qui s'est passé pour Aaron, hein, c'est, pour moi, sa disparition a mis en abîme en fait la folie de cette décision effectivement de privatiser les fruits de la recherche publique ou de la recherche d'une manière générale. Je dirais que c'est pas l'apanage. Je reviens là-dessus. C'est pas du tout que j'aime Bill Gates, mais franchement, pour le fait que sa fondation force chacun des chercheurs à publier en accès libre le résultat des recherches financées par eux, c'est quand même assez énorme. Moi, j'ai plus envie de parler de la question de la jeunesse et de la question des fulgurances et de la question de la réaction des adultes et, des, et de ce que nous pouvons faire, nous, par rapport à ces enfants qui débarquent avec une, un canal, je ne sais pas, une intelligence, une force, et que nous ne savons pas nécessairement décoder, et que nous ne voyons pas, en fait. Et j'ai l'impression qu'ils sont nombreux. Aaron, je ne dirais pas qu'il voulait, facile à dire, un jour qu'il voulait changer le monde. Il était d'ailleurs très sérieux sur le sujet. Certains adultes l'ont pris au sérieux, et puis... beaucoup ont eu peur de son intelligence. Si le gouvernement a lancé une cabale contre lui, c'est parce qu'ils avaient peur de ce qu'il ferait de cette intelligence-là. Moi, c'est une histoire qui me vrille, en fait. C'est comme si tout ce qui sortait de la médiocrité était quelque chose qui devenait un problème, en fait. Et là, je pense que là-dessus, on a tous une responsabilité. On a tous une... on a tous une responsabilité à accueillir les personnes qui nous sortent de notre confort, en fait, y compris notre confort mental. Et à nouveau, aujourd'hui, je trouve que la jeunesse est très puissante là-dessus. Mais on préfère ne pas entendre, on préfère mettre ça sur une crise d'adolescence, un moment de rage, un moment de colère, alors que les messages sont stellaires et limpides. Et pour moi, c'est ce que Aaron m'a dit, en fait. C'est... Quand je me suis rendu compte qu'en fait, le gouvernement, l'administration, y compris ses anciens amis, ne l'avaient pas nécessairement entendu sur son message profond, je me suis dit que je ne voulais plus qu'aucun enfant ne se suicide de ne pas avoir été entendu. Et je suis navrée de finir sur une note négative, mais aujourd'hui, je pense qu'il... qu'ils vont pas bien, voir que beaucoup tombent comme des mouches.
Alors, est-ce que je peux juste me permettre, parce que je vois que sur le salon web, il y a une question, et peut-être que Flore aura une réponse, vu que c'est un peu dans la logique de ce que vous venez de dire. La question, c'est Marie-Odile qui demande « Serions-nous capables de comprendre et de protéger un nouvel Aaron aujourd'hui ?»
Ben merci pour cette question, c'est exactement la bonne question. Et moi, c'est mon stress, en fait. Qu'est-ce qu'on fait pour... ces personnes qui débarquent avec nécessairement, alors, pas tous les codes, c'est-à-dire pas l'âge nécessaire, pas certainement. On est habitué à attendre ce genre de, je dirais pas de prophétie, mais en tout cas de travail de la part de gens qui sortent de tel diplôme, machin, etc. Qu'est-ce qui se passe quand ça arrive très vite, que c'est pas médié, que ça sort brutalement, que c'est... voilà, comment est-ce qu'on est capable de faire ça? J'aimerais que l'histoire d'Aaron nous serve de leçon. Je pense que c'est d'ailleurs pour ça que j'ai écrit ce livre, c'est pour ça qu'après j'ai fait un... Je dédie ma vie à ça, en fait. Mon film Bigger Than Us parle exactement de ça. Alors, il n'y a pas que la technologie dans la vie. Il n'y a pas que à cet endroit que le sort de l'humanité se joue. Il se joue à plein d'endroits, sur la sécurité alimentaire, sur les questions des migrations, sur bien sûr le climat, sur les questions de la corruption, sur les questions des conditions faites aux femmes, etc. Et là-dessus, il y a énormément de jeunes qui bougent et personne ne les voit. Personne ne les entend, à commencer par le système médiatique en général. On écoute toujours et encore les mêmes experts, avec les mêmes théories, avec les mêmes façons de penser, qui sont exactement ces façons de penser contre lesquelles Aaron luttait, la propriété privée, la propriété intellectuelle au strictement défini, le droit d'auteur complètement galvaudé. Enfin, voilà, tout ça, cette idée de séparation, Aaron fait partie de ces personnes-là qui sont venues nous dire que tout était lié, que nous étions liés. Il est venu réincarner une analyse de quelqu'un qui était à des millions de possibilités, hein, de liens, peut-être, qui est Pierre Teilhard de Chardin, un jésuite paléontologue du début du XXe siècle, qui a dit finalement, il a eu cette prophétie dès 1930, il a dit, un jour il y aura une technologie qui sera comme un cortex mondialisé pour permettre à l'humanité et à l'univers d'avoir une conscience de lui-même. Aaron, il a défendu cette idée-là. Aujourd'hui, il y a plein de... Je vois plein de jeunes qui arrivent, alors pas nécessairement avec cette portée philosophique-là, mais qui arrivent et qui se disent « On est dans un moment complètement stratégique de l'histoire, de la vie, comme Aaron le savait. Il faut que je mette mon corps en travers de la route, comme Lessig le fait. » Ces jeunes-là, je pense qu'il est dans notre devoir à tous, qu'on soit libriste, journaliste, écrivain, politique, parent, prof, etc., de protéger ces gens-là.
Eh ben, merci beaucoup pour ce message, en tout cas. Pour rebondir sur quelque chose, essayer d'être un peu positif malgré tout, on peut se dire que malgré effectivement cet acharnement qui l'a poussé au suicide et malgré effectivement la puissance que peut avoir la machine étatique, on va dire, je ne sais pas comment on pourrait dire quand elle veut faire barrage à ce genre de personnes, il y a toujours, voilà, les lanceurs d'alerte existent toujours. Edward Snowden, par exemple, est un très bon exemple, même si effectivement il était plus âgé que Aaron Swartz, mais ça l'a pas empêché de faire les révélations qu'on sait. On pourrait aussi parler, pour revenir dans la problématique de la science libre de Sci-Hub, qui est donc un site web qui a été créé par une étudiante en neurosciences au Kazakhstan, Alexandra Elbakian, et qui, alors c'est un site clairement pirate, je veux dire, qui est illégal dans beaucoup de pays, pour distribuer les articles scientifiques qui sont normalement payants de manière complètement libre et gratuite. Amel, vous pouvez nous en parler ?
Moi, en fait, j'aurais surtout envie de dire que pour conclure effectivement sur une note entre guillemets un peu optimiste, sur le caractère, je trouve assez inspirant toujours de la figure de Swartz. En tout cas, c'est vraiment comme ça que c'est assez frappant d'ailleurs quand on en parle avec des gens qui entre guillemets sont des militants de l'internet depuis longtemps, à quel point ils sont toujours effectivement attachés à cette figure. À mon avis, à la fois parce que il a eu comme d'autres, pas tout seul, mais il a vu venir, en fait, je crois, l'internet dans lequel on est aujourd'hui, c'est-à-dire que l'ultra-centralisation, il l'a vu venir, l'essor des technologies sécuritaires, il les a vu venir, etc. Et même si, effectivement, l'internet dans lequel on vit aujourd'hui n'est pas forcément satisfaisant, c'est le moins qu'on puisse dire, et tourne quand même au cauchemar, il y a quand même cette possibilité toujours de réactiver un certain nombre d'idéaux, et cette figure-là reste, j'ai l'impression, une espèce de point de repère pour beaucoup de gens, même si les choses évoluent, et ça c'est vrai que c'est assez frappant quand on regarde, quand on observe aussi ces sphères. Moi je vois depuis quelques années quand même de plus en plus une critique de plus en plus forte de l'informatisation massive, du côté effectivement assez aliénant, quoi, que toutes nos relations sociales aujourd'hui avec les administrations, avec les entreprises, sont complètement médiées par le numérique. Et il y a des gens qui aujourd'hui appellent d'une certaine manière à une forme de décroissance aussi. Je ne sais pas ce que quelqu'un comme Swartz en dirait, mais ce qui est certain, c'est que même avec toutes ces évolutions, toutes ces mutations et effectivement ces lignes de front qui bougent un peu, la figure de Swartz reste une référence, reste une figure inspirante, et elle est aussi très inspirante, je crois, parce que, enfin en tout cas, moi, c'est les gens avec qui j'en ai parlé, tous insister là-dessus, c'est sur cette manière de ne jamais effectivement décorréler le code de la politique. C'est-à-dire qu'on construit des outils technologiques au service d'objectifs politiques, et on construit des outils technologiques dans un cadre éthique.
Très bien, merci beaucoup. Écoutez, pour conclure, je vous demanderai à chacune si vous aviez un dernier mot. Bon, qu'est-ce que vous voudriez qu'on retienne d'une émission comme celle-ci sur Aaron Swartz, Flore Vasseur?
À nouveau, je voudrais repointer sur le génie de l'enfance, sur la question de la fulgurance, sur effectivement l'emprise de la technologie sur nos vies, sur lequel Aaron a été l'un des premiers à nous prévenir. Et c'est comme si il avait vu son rêve se retourner, en fait. Il l'a vu très vite de ses yeux au moment de son adolescence. Et je voudrais juste rappeler combien, malheureusement, notre société, vous parliez d'Edward Snowden à ce jour, je vous mets au défi d'essayer de comprendre ce qu'il est en train de vivre aujourd'hui. Moi, je trouve que notre société ne sait pas considérer la chance qu'elle a d'avoir des personnes qui essayent de nous prévenir. Et que, malheureusement, je ne trouve pas que ça vaille vraiment dans le bon sens. Ces personnes-là sont de plus en plus seules, et l'indifférence est de plus en plus grande. Alors vraiment, ma grande question, c'est, et si j'ai un message pour cette émission, c'est qu'est-ce qu'on attend en fait ? Qu'est-ce qu'on attend pour sortir de cette aliénation-là, à laquelle la technologie effectivement contribue grandement ?
Merci beaucoup. Amélie Guiton ?
Bah, non, mais peut-être très brièvement, c'est parce que comme c'est peut-être effectivement retenir cette idée qu'on est dans un monde qui est, où le numérique est partout, où il est envahissant, où il est effectivement devenu pour une bonne part aliénant, même s'il n'est pas que ça, heureusement. Et ce que raconte le parcours de quelqu'un comme Aaron Swartz, en tout cas ce qu'il a fait très concrètement, ce que ça dit, c'est qu'il faut toujours se demander ce qu'on code, parce que lui, de manière évidente, se demandait à chaque fois ce qu'il codait, et codait dans un objectif, et codait à partir aussi d'un cadre qui était un cadre éthique et moral. Et je crois que pour le coup, quand on voit aujourd'hui le nombre de formations de développeurs, etc., enfin, on n'arrête pas de parler effectivement de la transition numérique, et y compris des besoins que ça crée en ressources humaines, avec des guillemets, ben voilà, il faut aussi que les gens qui codent aujourd'hui se redemandent à chaque fois, mais qu'est-ce que je code ? À quoi ça sert ? Où est-ce que ça va ? Pourquoi faire ? Et qu'à partir du moment où effectivement on se demandera un peu plus ce qu'on code, peut-être qu'il y aurait des tas de choses qui en fait ne verraient sans doute jamais le jour.
Sans doute. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Bah écoutez, merci à vous, à G, pour avoir préparé et animé cette émission, et puis à nos deux invités, donc Flore Vasseur et Amaëlle Guiton. Donc pour aller plus loin, je vous renvoie au livre de Flore Vasseur, donc Que reste-t-il de nos rêves, qui est un livre vraiment passionnant. Bon, visiblement, qui est passionnant. Et demain, alors si vous écoutez en podcast, ce sera mercredi 11 janvier, la double page d'Amaëlle Guiton publiée dans Libé, en Libération, que vous pourrez lire donc pour en apprendre encore plus sur Aaron Swartz. Et tu voulais rajouter quelque chose ?
Et puis également, le film dont on a déjà parlé, hein, donc The Internet Soundboy, donc c'est L'Enfant d'Internet, je crois, en version française, donc qui est un film sur Aaron Swartz avec pas mal d'images d'archives, des interviews de Laurence Lessig et toutes ces personnes-là.
Tout à fait. Toutes les références sont sur le site de l'émission sur libreavoue.org. Alors je préviens Thierry que nous n'allons pas faire une pause musicale pour rattraper le retard. Nous allons passer directement au sujet suivant. Les choix, voire les coups de cœur de Marie-Odile Morandi, qui met en valeur deux ou trois transcriptions dont elle conseille la lecture. C'est la chronique Les transcriptions qui redonne le goût de la lecture de Marie-Odile Morandi, animatrice de notre groupe Transcription. Le thème du jour, connaître les biais, cesser d'en être leur victime. La chronique a été écrite par Marie-Odile et mise en voix par Laure Élise Déniel. J'ai du mal aujourd'hui. On se retrouve dans 10 minutes.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Tout d'abord, comme c'est la coutume en début de mois de janvier, le groupe Transcription de l'April, chers auditeurs et auditrices de l'émission Libre à vous, vous souhaite une excellente année 2023, que vous nous écoutiez en direct ou en podcast. Il nous arrive de transcrire des podcasts de l'émission La Voix est libre, émission proposée par Picasoft, une association amie de l'April, qui s'est donnée pour mission de sensibiliser les citoyens et citoyennes aux enjeux du numérique. Cette association fait partie du collectif Chatons, initié par Framasoft, le collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires. Ce chaton à Compiègne, ouvrez les guillemets, héberge des services web respectueux de la vie privée, promeut une approche libre, éthique, inclusive et locale du numérique. Pour enregistrer ces podcasts, trois amis, Baptiste Wojcicki, Quentin Duchemin et Stéphane Croza, se retrouvent régulièrement. Le style de leurs échanges est plaisant. Les thématiques, complexes mais toujours d'actualité, sont abordées de façon agréable avec de nombreux exemples à l'appui. Puis ces transcriptions redonnaient le goût de la lecture, intitulée de cette chronique. Nous avons transcrit récemment l'émission intitulée « Les biais de l'intelligence artificielle » dont nous vous recommandons la lecture. Cette émission a été réalisée il y a un an, mais le thème des biais est toujours réel et c'est le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui. Vous trouverez la référence dans la page de l'émission de ce jour. Quand un algorithme ne répond pas bien à la tâche qui lui est demandée ou qu'il favorise certaines catégories de la population, on parle de biais. Les algorithmes d'intelligence artificielle sont utilisés partout. Sur YouTube, sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, pour suggérer ou plutôt choisir le contenu présenté aux utilisateurs et aux utilisatrices, mais aussi pour profiler, pour assister des décisions de recrutement, de solvabilité bancaire, voire des décisions médicales, juridiques ou politiques. Il existe divers types d'algorithmes et ils ne fonctionnent pas de la même manière. Donc, nous dit Baptiste, on est assez vite perdu quand on en parle. Dans les systèmes experts, le raisonnement se fait par syllogisme et les principes sont écrits à l'avance. Par exemple, tous les libristes sont barbus et mal coiffés. Quentin est libriste.
Il est barbu et mal coiffé. Mais Stéphane est moins barbu et mieux coiffé, donc on va avoir un souci. Les informaticiens entrent ces principes à la main. Ce sont des êtres humains, avec leurs connaissances sur le monde, leurs préjugés, leurs projections personnelles. Les biais présents sont liés à la structure du programme, à son contexte de fabrication, et sont créés par les personnes qui développent ces systèmes. Les systèmes basés sur de l'apprentissage, le terme anglais utilisé est « machine learning », ont besoin que leur soit fourni en entrée de grandes quantités de données pour permettre justement cet apprentissage. Baptiste nous explique que leur entraînement change les paramètres. Les parcours logiques empruntés pour obtenir les résultats sont constamment réactualisés, c'est bien qu'à la fin, personne ne sait vraiment expliquer pourquoi tel résultat a été obtenu, la chaîne de calcul n'étant pas assignée par les développeurs. On est donc face à une espèce de boîte noire particulièrement opaque. Pour ces systèmes, il est nécessaire que les données fournies à l'algorithme en entrée soient bonnes, bien annotées, on dit correctement étiquetées. Ces données reflètent le monde réel, tel qu'il est, sexiste et raciste. Le résultat fourni en sortie risque de favoriser les personnes fréquemment en position de domination. Les hommes par rapport aux femmes, les gens de droite par rapport à ceux de gauche, les personnes blanches, cisgenres, hétérosexuelles, etc. L'exemple proposé concernant Twitter est parlant. On s'est rendu compte que, de manière générale, si un contenu pouvait plutôt être attribué à un parti politique traditionnel, conservateur, il a plus de chances d'être relayé par l'algorithme et de parvenir aux autres utilisateurs. Rééquilibrer la diversité des messages envoyés sous-entend de savoir, donc de collecter, entre autres, les opinions politiques de la personne qui a diffusé ce contenu. Et comment faire? Lui demander? Et de quelle façon? Agir à son insu pour obtenir ces informations? Les objectifs donnés à l'algorithme, les critères choisis, peuvent mener à une discrimination. On parle alors de biais sur les objectifs, présents par exemple dans les algorithmes d'aide au recrutement. Le cas cité concerne Amazon, qui cherchait à réduire le coût de ses procédures de recrutement. Le coût de recrutement des femmes ayant été estimé plus élevé que celui des hommes, l'algorithme se montre discriminant à l'égard des femmes à cause de l'objectif initial qui impose dès le départ la présence du biais. Des biais se rencontrent aussi très souvent quand il s'agit d'algorithmes destinés à exécuter des arbitrages comportant une dimension morale. L'exemple donné est celui du projet Ask Delphi, intelligence artificielle à qui l'on peut désormais demander si ce que l'on compte faire est bien ou mal. C'est très problématique de placer sa confiance dans un tel objet. Il n'existe pas de réponse universelle simple ou facile à une telle question. Le constat est flagrant. Les algorithmes d'intelligence artificielle prennent les déformations du monde et intrinsèquement les amplifient. Ils ne peuvent pas trouver la vérité de manière magique. Ils intègrent ainsi nécessairement des biais sexistes, racistes, discriminatoires, etc. Y aurait-il des solutions de rémédiation? Certes, c'est compliqué. Et Stéphane Croza fait remarquer que tout cela n'est pas très différent du contexte humain normal. Les décisions prises par les humains, elles non plus, ne sont pas toujours compréhensibles. Gageur donc d'espérer que ces algorithmes soient capables de résoudre des problèmes à notre place, de nous remplacer dans des prises de décision, en se disant que, puisqu'ils sont issus de la science, ils se montreront rationnels, neutres, capables d'arriver à la perfection. Nous savons que ce sont des personnes qui font ces algorithmes, des développeurs et des développeuses qui ont leur propre conception du monde et qu'ils risquent de l'y intégrer. Donc, à minima, ces personnes doivent être sensibilisées et formées à toutes ces questions de discrimination et de biais. Il faut ici rappeler une transcription un peu plus ancienne d'une conférence proposée par Marion Magnier en 2020, intitulée « Pourquoi les développeurs et développeuses ont besoin d'une formation aux questions d'éthique ?» Marion est développeuse pour des applications web dans le domaine de la santé. Elle rappelle l'importance de se former à l'éthique. Chaque domaine du milieu de l'informatique doit poser un certain nombre de principes auxquels chacun est censé obéir. Il y a toujours un être humain derrière la conception d'un algorithme, même, dit-elle, pour les générateurs automatiques de code qui n'ont pas été créés par d'autres générateurs automatiques de code, mais bien par des êtres humains. Son domaine est la médecine. Des médecins non sensibilisés aux questions de racisme ou aux questions de genre vont traiter différemment leurs patients. Pour elle, c'est la même chose en informatique. Un développeur non sensibilisé aura des biais de par son éducation, de par son expérience, et risque de les faire ressortir dans son ouvrage. Dans l'idéal, le développeur doit prendre connaissance du cadre fonctionnel, du contexte technique dans lequel il va devoir exécuter le travail demandé. S'il y a des choses dont il n'a jamais entendu parler, comment pourra-t-il les mobiliser dans son raisonnement? Certes, nous sommes tous en faveur du progrès technologique, mais pas à n'importe quel prix. Ces technologies ne doivent pas être utilisées dans le but de nuire, ne doivent pas nuire à la liberté et ne doivent pas renforcer des inégalités, voire en instaurer de nouvelles. Est-ce honnête d'espérer que l'on va réussir à faire des intelligences artificielles qui ne seront pas biaisées ? Toute décision, tout jugement moral est biaisé par un contexte, un objectif, des contraintes. Nos objets techniques portent notre subjectivité et un biais supplémentaire nous guette. Puisque c'est produit par un algorithme, puisque c'est produit par une machine, on a l'impression que ces algorithmes réfléchissent, sont objectifs, qu'ils vont nous aider à trouver des solutions, que la décision qu'ils vont prendre est impartiale, rationnelle, voire indiscutable. Où est cette technologie idéale, merveilleuse, qui ferait mieux que l'être humain, qui serait capable de le remplacer en tout point ? Soyons conscients que nous avons là quelque chose d'automatique, d'insondable, qui va se tromper et on ne pourra même pas le lui faire remarquer. À la fin de leur entretien, les trois amis reviennent sur le cas des réseaux sociaux. Si tout le monde utilise seuls deux réseaux sociaux, Twitter et Facebook, les personnes qui maîtrisent leurs algorithmes ont en quelque sorte un pouvoir démesuré. Leur conseil est bien entendu de se tourner vers Mastodon, réseau décentralisé et fédéré avec ses nombreuses instances, chacune ayant ses propres règles. Chaque individu pourra choisir l'instance qui lui correspond et choisir la façon dont ordonnancer les contenus. Cette diversité donne la possibilité d'avoir du débat et donc de la démocratie. La quantité de vidéos hébergées sur PeerTube, service libre et décentralisé, est en constante augmentation. Constat est fait qu'une aide à la sélection devient nécessaire, mais bien entendu autre que celle de YouTube, dont l'objectif est de maximiser le nombre de vues et ainsi le temps passé sur la plateforme. Quentin nous conseille un projet de recherche, tournesol.app, auquel tout le monde peut participer et dont l'objectif est de proposer un système de recommandations éthiques, objectif que l'on ne peut que saluer. Sur cette plateforme, libre et collaborative, il est demandé aux contributeurs d'identifier les vidéos dont ils estiment le contenu de qualité, voire d'utilité publique. Pour ne plus avoir à composer avec les biais des algorithmes des quelques réseaux sociaux qui concentrent les masses, la solution est probablement d'avoir encore et encore des portées de chatons, comme Picassoft, le chaton de Compiègne, ou comme le Chapril, le chaton de l'April, qui nous fournissent des services libres et loyaux, deux chatons qui font partie de la centaine de chatons du collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires. Nous vous encourageons à relire les deux transcriptions mentionnées aujourd'hui, et pourquoi pas, à lire ou relire l'une ou l'autre des 163 transcriptions qui ont été publiées par notre groupe au cours de l'année 2022.
Nous sommes de retour en direct. Nous venons d'écouter la chronique de Marie-Odile Morandi, donc sur le thème « Connaître les biais, cesser d'en être leur victime ». Marie-Odile a écrit la chronique qui a été mise en voix par Laure-Élise Déniel. Et je vous rappelle que, comme la totalité des activités de l'April, le groupe Transcription est un groupe sur lequel vous pouvez contribuer. Donc vous allez sur april.org, ou plutôt même plus simplement sur le site des transcriptions, libralire.org, et vous trouverez les informations pour rejoindre leur groupe si ça vous intéresse. Notre émission se termine. Nous allons finir par quelques annonces. Chères auditrices et auditeurs, nous avons besoin de vous. Nous vous demandons simplement 5 minutes de votre temps. L'équipe de l'émission souhaite en effet vous connaître et vous propose un questionnaire. Vos réponses à ce questionnaire sont très précieuses pour nous. Elles nous permettront d'évaluer l'impact de notre émission et de mieux vous connaître. De votre côté, ce questionnaire est une occasion de nous faire des retours. Il est notamment particulièrement important pour nous d'avoir des réponses de la part de personnes qui nous écoutent actuellement en direct sur la bande FM ou en DAB+. L'émission du jour va se terminer dans quelques minutes. Dès la fin de l'émission, prenez simplement 5 minutes pour répondre au questionnaire. Pour cela, rendez-vous sur le site libreavous.org. Participez et ensemble, continuons d'améliorer notre émission. Merci à vous. Alors dans les annonces, dans les nouveautés, l'April propose maintenant un sous-boc ou un sous-vert avec d'un côté le logo de l'émission de radio donc Libre à vous et de l'autre une invitation à utiliser les services libres proposés par notre site chapril.org. Donc ce sous-boc sous-vert est disponible sur le site enventelibre.org avec d'autres différents documents comme des t-shirts, des dépliants, etc. Donc n'hésitez pas à en commander pour protéger vos tables et mettre vos verres dessus. Concernant les événements, alors à Paris, un atelier de changement de système d'exploitation pour téléphone mobile aura lieu samedi 14 janvier 2023 de 14h à 17h à Paris. Du côté de Beauvais, vendredi 20 janvier 2023, une table ronde sur le thème de l'éducation aura lieu en présence de Magali Garnero, présidente de l'April. Vous retrouverez les informations sur le site consacré à l'émission du jour libreavoue.org. Nous avons également publié sur notre site april.org un document de synthèse 10 minutes pour résumer l'activité de l'April en 2022 et poursuivre la dynamique en 2023. Ça va vous permettre de comprendre un petit peu et de connaître l'ensemble des activités de l'association en attendant la publication de notre rapport d'activité complet qui est prévu pour mars 2023. Je vous invite à consulter le site de l'Agenda du Libre, agendadulibre.org, pour trouver des événements en lien avec les logiciels libres ou la culture libre près de chez vous. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission du jour. Isabelle Carrère, Rémi, G, Flore Vasseur, Amaël Guiton, Marie-Odile Morandi, Laure-Élise Daniel. Aux manettes de la régie, Thierry Houlville qui a eu beaucoup de travail, notamment avec le téléphone. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts, Samuel Aubert, Elodie Daniel Giraudon, Langue 1, Julien Haussmann, bénévole à l'April, et Olivier Grieco, le directeur d'antenne de la radio. Merci également à Quentin Gibault, bénévole à l'April, qui découpera le podcast complet en podcast individuel par sujet. Vous retrouverez sur notre site web libreavoue.org toutes les références utiles, ainsi que sur le site de la radio, causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse contact@libreavoue.org. Si vous préférez nous parler, vous pouvez nous laisser un message sur le répondeur de la radio. Pour réagir à l'un des sujets de l'émission, pour partager un témoignage, vos idées, vos suggestions, vos encouragements ou nous poser une question. Le numéro du répondeur, 09 72 51 55 46. Je répète, 09 72 51 55 46. Cette émission est réécoutable en podcast, seul, à deux ou à plusieurs, selon vos envies. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et de faire connaître également la radio Cause Commune, La Voix des Possibles. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 17 janvier 2023 à 15h30, l'occasion d'initier un nouveau format de sujet principal intitulé Parcours libriste. L'idée est d'inviter une seule personne pour parler de son parcours personnel et professionnel. Le premier invité mardi 17 janvier sera Françoise Conil, ingénieure en développement logiciel au CNRS. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 17 janvier et d'ici là, portez-vous bien.